journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
À la une ce matin, 6 Français tués par des hommes armés au Niger, une attaque qui n'est pas revendiquée pour l'instant. Les autres titres, Laurence.
Le succès du viager en France. Les personnes âgées préfèrent s'organiser plutôt que d'aller en EHPAD. La crise sanitaire du Covid-19 est passée par là. Le carton littéraire de l'été avec le dernier livre de Nicolas Sarkozy. Un succès qui agace certains à droite. Et puis à la fin de ce journal, beauté, poésie, fraîcheur, neiges éternelles. Nous partirons sur les hauteurs du Mont Fuji avec une exposition au Musée Guimet à Paris.
Les invités de la matinale à 7h50, le député RN du Nord, Sébastien Chenu, nous expliquera pourquoi cette purge des cadres au sein du parti de Marine Le Pen en plein cœur de l'été. Et puis à 8h20, l'attaque au Niger, la crise au Liban, les élections en Biélorussie seront au menu du grand entretien avec le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard. Posez-lui vos questions, partagez vos observations au 01 45 24 7000. Le standard est d'ores et déjà ouvert ou sur l'appli franceinter.fr.
France Inter.
Kouré, au sud-ouest du Niger, une zone ce matin entièrement quadrillée par l'armée nigérienne, appuyée par des avions de chasse français et des soldats de la force Barkhane. C'est là, à une heure de route de Niamey, que 6 Français et leurs 2 guides locaux ont été sauvagement assassinés hier. Le récit avec Nathalie Hernandez.
Ce sont 6 Français qui travaillaient pour l'ONG Acted, leur chauffeur et leur guide, qui ont été tués, assure le ministère nigérien de la Défense. Auparavant, l'Élysée avait confirmé que des ressortissants français avaient bien été touchés, sans en préciser le nombre, ni les raisons pour lesquelles ils se déplaçaient au Niger. Ils ont été attaqués vers 12h30, heure française, par un groupe d'hommes armés venus à moto, un groupe qui s'est caché dans la brousse, qui les a guettés avant de les tuer et d'incendier leur véhicule. Les humanitaires se trouvaient sur la route nationale 1, près de Kouré, à une heure de la capitale Niamey, dans une région qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Selon France 24, l'organisation terroriste Al-Qaïda nie son implication dans cette attaque. D'autres groupes armés sévissent au Sahel, comme l'État islamique au Grand Sahara, en particulier dans les pays du G5 Sahel. L'armée française a aussitôt apporté son appui aux forces nigériennes pour retrouver les assaillants.
Nathalie Hernandez, alors l'ONG Acted est au Niger depuis plusieurs années. Le groupe de Français était parti dans cette zone pour une excursion touristique, semble-t-il, une zone classée orange où les voyages sont déconseillés. Mais c'est cependant la première fois qu'une telle attaque vise des Occidentaux à cet endroit. Joseph Bréham, l'avocat de l'ONG Acted.
Ils sont allés dans l'endroit le plus zen du Niger, qui est à 45 minutes de la capitale en voiture. Et pour autant, pour la première fois, alors que tous les Français ou tous les expatriés vont à cet endroit-là, pour la première fois, il y a eu une attaque. Il s'est passé l'inimaginable.
Oui, il n'y avait pas de contre-indication à aller dans cette zone.
Il y avait des contre-indications à être partout au Niger. En revanche, par définition, et pour les salariés d'Acted, une contre-indication, c'est quasiment l'obligation d'y aller. Et maintenant, cette zone en particulier, dans la contre-indication générale du Niger, était une des zones les plus zen, voire même la plus zen du Niger.
Joseph Bréham, l'avocat de l'ONG Acted, et après cette attaque, l'Élysée a fait savoir qu'un conseil de défense se tiendra demain matin. Pékin ne plaisante plus, disait Jimmy Lai il y a quelques semaines encore après la promulgation à Hong Kong de la nouvelle loi de sécurité nationale. Le puissant patron de presse hongkongais, ouvertement anticommuniste et l'une des figures principales du mouvement pro-démocratie, vient d'en faire les frais. Jimmy Lai a été arrêté pour des accusations de collusion avec des puissances étrangères, un crime désormais passé de prison à perpétuité. Avec près de 80% des voix, Alexandre Loukachenko a été donné dès hier soir grand vainqueur de la présidentielle en Biélorussie, un score et un résultat très largement contesté par ses opposants qui ont manifesté leur mécontentement dans la rue. L'île Maurice se prépare au pire. Le cargo échoué dans les eaux cristallines de l'océan Indien menace désormais de se briser. 1000 des 4000 tonnes de carburant transportées par le bateau japonais au pavillon panaméen se sont déjà déversées en mer. La France a dépêché un navire sur zone depuis la Réunion. Un avion et des experts sont attendus également sur place pour aider les Mauriciens à lutter contre cette marée noire. Près de 253 millions d'euros, c'est l'engagement financier pris par les donateurs internationaux pour venir en aide au Liban, réuni hier au cours d'une visioconférence organisée par la France et les Nations Unies. La communauté internationale a exigé que cette aide soit distribuée directement à la population et qu'une enquête transparente soit menée sur les causes de l'explosion. Et comme dans toutes les catastrophes type 11 septembre ou AZF à Toulouse, il y a l'urgence. Mais on sait, Véronique Julia, que les stigmates de telles tragédies sont visibles encore des années après.
À Toulouse, en 2001, on a constaté 3 fois plus d'infarctus que d'habitude dans les jours qui ont suivi l'explosion d'AZF. Sidération, stress, angoisse. 5 ans après, une partie de la population était toujours dépressive. Thierry Lang est épidémiologiste. Il a travaillé sur les effets de long terme d'AZF. Il se souvient d'une jeune femme dont la santé mentale a vacillé à cause d'un trouble de l'audition persistant après le drame.
Une maman qui était institutrice, qui a une surdité, qui a quitté son travail, qui s'est reconvertie, elle divorce, etc. Tout ça, c'était un facteur favorisant de la dépression.
Les enfants et les catégories sociales défavorisées ont payé plus cher que les autres, ajoute Thierry Lang, avec plus de stress post-traumatique. Mais ce qui a frappé le médecin surtout, c'est que les populations touchées se sont finalement assez peu intéressées à leur santé.
Bien des gens nous ont dit qu'effectivement, ils auraient bien aimé consulter un psychiatre parce que ça n'allait pas, mais que c'était pas le moment. Il y a tellement d'autres choses auxquelles il faut faire face à ce moment-là qu'on ne consulte pas.
Quelles conséquences de long terme tout cela a-t-il pu avoir sur des diagnostics non posés, difficiles à dire, sur les polluants, poussières et résidus de combustion? Inhalée par les populations, les Américains ont décrit des conséquences après le 11 septembre. Mais la comparaison entre ces catastrophes reste compliquée. Au moment d'AZF, Toulouse était une ville tranquille. La population de Beyrouth vit dans un contexte beaucoup plus douloureux, ajoute Thierry Lang, sans savoir si cette différence la rendra plus résiliente ou au contraire plus vulnérable.
Véronique Julia.
C'est un effet inattendu de la crise du Covid. Dans l'immobilier, de plus en plus de transactions se font en viager.
Le système consiste pour l'acquéreur à payer un capital, puis une rente, chaque mois aux propriétaires du bien, et ce jusqu'à leur mort. Et le viager semble séduire aujourd'hui aussi bien ceux qui veulent acheter que les vendeurs des personnes âgées qui souhaitent rester chez elles. Faustine Calmel.
Les milliers de morts dans les EHPAD, les pensionnaires privés de visite pendant de longues semaines. En suivant les actualités de la crise du Covid-19, Colette et Paul Berche, 84 et 86 ans, ont été confortés dans leur choix de vendre en viager leur appartement des Sables d'Olonne où ils se sentent si bien.
On avait déjà une très mauvaise opinions des EHPAD. On ne peut pas aller dans une maison de retraite vu les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle. On est quand même nettement mieux chez soi. Et puis comme on n'a pas d'héritier.
Le couple touche 850 euros de rente mensuelle, de quoi lui permettre de faire face aux dépenses de santé ou d'adaptation du logement. Solution prisée, puisque Sophie Richard, fondatrice du réseau spécialisé Viagimo, a vu les demandes exploser au moment du déconfinement.
On a effectué plus de 5 ventes en 10 jours. Sachant que la moyenne en viager est entre 1 à 2 ventes par mois.
Avec une grande nouveauté.
Depuis la crise sanitaire, ce sont particulièrement les enfants des seniors qui se rapprochent pour essayer de trouver une solution au mieux vieillir pour un maintien à domicile principalement.
Quitte pour ces enfants à renoncer à une partie de leur héritage. Pour les acheteurs, la bonne affaire dépendra de la longévité des vendeurs, mais ils refusent évidemment tout cynisme dans la démarche.
Faustine Calmel, ils se sentent les laissés pour compte de la crise sanitaire, ces Français expatriés bloqués à travers le monde. Nous nous intéressons ce matin à ces Français restés en Chine. Arrivés, départ d'étrangers très encadrés, avec des situations, Sébastien Berriot, parfois très délicates.
Cela fait 14 ans que Marianne Daquet habite à Pékin avec sa famille. Avec l'épidémie, cette Française a perdu tous ses revenus. L'école d'art qu'elle avait créée a dû fermer ses portes. Marianne vit de petits boulots. Elle souhaiterait aujourd'hui revenir en France pour mettre à l'abri ses 3 enfants. Il y a quelques avions que le gouvernement français a réussi à négocier avec Pékin, mais à des prix inabordables.
Pour une famille comme la mienne, c'est 15 000 euros. Donc c'est absolument impossible, sachant que j'ai perdu mon travail. Le fait d'être privé, ne serait-ce que de rentrer dans nos pays, c'est très dur. On se sent seul, perdu. On nous a complètement laissé tomber.
Lionel Sancho, lui, est à la tête d'une entreprise près de Pékin. À cause du confinement, ce Français vit seul. Sa femme était partie dans l'Hexagone au mois de mars. Et avec l'épidémie, elle n'a jamais pu revenir. Depuis 5 mois, le couple communique uniquement par les réseaux sociaux, et ça commence à faire très long.
Nous avons fêté nos 30 ans de mariage cette année. Mon épouse était en France et moi j'étais à Pékin par WeChat. 30 ans de vie commune, le célébrer par un petit écran de smartphone, ça laisse un goût très amer.
Lionel espère trouver un billet d'avion pour sa femme, peut-être pour début septembre. Marianne Daquet, elle a compris que le départ était impossible. Sa famille a déménagé dans un appartement moins cher à Pékin en attendant de trouver une solution.
Sébastien Berriot, c'est ce qu'on appelle un succès de librairie. Il vient de détrôner le roman de Joël Dicker et le guide culinaire de Cyril Lignac. Son livre parle pourtant de crise financière, de jeux diplomatiques, de politique française sur plus de 500 pages. Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy, sorti il y a seulement 15 jours, connaît un démarrage encore plus fulgurant que Passion, son livre précédent, tiré à 250 000 exemplaires. Mais Maxence Lambrec, ce nouveau succès interroge et inquiète.
5 à 6 000 exemplaires vendus chaque jour au cœur de l'été, du jamais vu pour un politique. Son éditrice s'est elle-même surprise et vient d'en réimprimer 20 000. Un style direct, un récit à la première personne, rythmé entre coulisses, vie privée et histoire politique. Son lectorat dépasse largement son électorat. Il est devenu un personnage de roman, presque amusant, de moins en moins clivant, mais de plus en plus agaçant à droite. Ras-le-bol de la sarcomania, peste un jeune élu LR. Il veut toujours prouver qu'à droite, personne ne lui arrive à la cheville, peste un ténor du parti. J'ai tout fait dans ma vie pour qu'on me remarque, admet Nicolas Sarkozy, page 27. Mais n'est-ce pas le moment de tourner la page, s'interroge le député LR Philippe Gosselin.
N'entretenons pas une nostalgie artificielle. Moi, je regrette cette époque 2007-2012, mais il faut aujourd'hui se tourner vers l'avenir autrement, ou alors que Nicolas Sarkozy assume pleinement le rôle de relève qu'il voudrait assumer.
Espoir vain, Nicolas Sarkozy va continuer d'entretenir le doute et la flamme avec des séances de dédicaces à la rentrée et un tome 2 juste avant la campagne présidentielle à laquelle il promet de ne pas participer. Mais dans sa famille, on en doute de plus en plus.
Maxence Lambrec, un peu de fraîcheur en pleine canicule, direction le Fujiyama au Japon.
Fuji, pays de neige, une exposition rare à Paris au musée Guimet pour sa réouverture post-confinement. Ce volcan au cône quasi parfait, recouvert de neiges éternelles, a inspiré de nombreux artistes au fil des siècles. Jacqueline Petros.
Au 19e siècle, le Fuji et ses neiges éternelles fascinent les grands maîtres. Okuzai, Hiroshige, Koryusai jouent avec les variations de lumière et l'éclat de la neige, comme le fait encore dans les années 50 l'extraordinaire Asui. Au pied du géant, tout un petit peuple travaille et sur ses pentes, les pèlerins affrontent le froid. Nostalgie, poésie, vie quotidienne, ces estampes reflètent ce temps suspendu où règne la montagne unique. Sophie Makariou, présidente du musée Guimet.
Estampes en japonais, on appelle ça l'ukiyo-e, et c'est les images, comme on dit, du monde flottant. Il y a cette idée de l'impermanence qui est très présente dans l'esprit des japonais. Il y a plusieurs façons de lire ces estampes, presque sur le mode de la bande dessinée. La dernière estampe de l'exposition qui date de 1957, qui fait beaucoup penser à la fameuse ligne nucléaire de Hergé. On peut détailler tous les personnages, il y a quantité de petits détails et d'anecdotes. Mais il y a aussi une lecture, je dirais, plus poétique. On n'a pas besoin d'être un immense connaisseur pour être presque connecté immédiatement avec l'art de l'estampe.
Ce sont plus de 70 estampes présentées ici qui sont rares. Fragiles, craignant la lumière, elles ne sont exposées que 3 mois tous les 3 ans. Se plonger dans leur contemplation est un bienfait incontournable.
Fuji, pays de neige, au musée Guimet à Paris jusqu'au 12 octobre.
C'était le journal de Laurence Thomas.